prise de terre.
Bonjour Lucien Villemain.
Bonjour.
Conduire une voiture hybride est-il un geste plus écologique que de rouler dans un vieux 4x4? Les véhicules dernière génération sont-ils réellement plus économes que les vieux tacos? Et donc, vaut-il mieux acheter une voiture neuve ou faire réparer la vieille? Voilà autant de questions auxquelles vous apportez vos réponses, de manière assez surprenante d'ailleurs, on le verra, dans un opuscule d'une quarantaine de pages que vous signez aux éditions Jet d'encre, illustré par Mix et Remix, et qui s'intitule, avec beaucoup d'humour, voire d'ironie, En voiture Simone, premier titre d'ailleurs, si j'ai bien compris, d'une série à paraître ultérieurement, entièrement consacrée à l'énergie grise. On va y revenir, mais tout d'abord, Lucien Villemain, en quoi êtes-vous légitime pour répondre avec pertinence, en tout cas, à des questions qui relèvent en général de spécialistes? Vous qui avez une formation bancaire, qui avez mené une carrière dans l'immobilier avant de tout laisser tomber il y a quelques années, pour vous consacrer entièrement à la pédagogie autour des enjeux environnementaux. Vous étiez d'ailleurs venu nous en parler dans Prise de Terre. Quelle est votre légitimité pour publier ce genre d'opuscule?
Ben simplement, on a oublié une chose, c'est que je suis allé travailler dans l'horlogerie et ça m'a permis de voyager en Chine, Hong Kong, Bangkok, etc., tout le sud-est asiatique pour aller y faire des achats. Et j'ai remarqué ce qui se passait là-bas, ce qui m'a donné une ouverture d'esprit plus importante que ce que j'avais auparavant. C'est-à-dire que j'ai découvert ce qui se passait vraiment en Chine pour fabriquer tous nos objets, vu que j'étais acheteur pour des objets que nous consommions ici. Et j'ai vu ce que ça voulait dire. Et lorsque je rentrais ici et que j'entendais des spécialistes ou des experts qui nous disaient « c'est bien d'acheter, c'est bien pour les Chinois, ils seront heureux, ils seront comme nous, ils auront une belle voiture, etc. » Alors on n'est pas là, je ne peux pas juger du bonheur des autres. Mais en tout cas, moi, ce que j'allais voir en Chine à travers les achats que je faisais régulièrement, je n'y trouvais pas le bonheur. Donc la légitimité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très habitué à avoir des experts, des spécialistes, effectivement. Ok. Moi, ce qui se passe, ce que je trouve aujourd'hui, surtout au niveau de l'environnement, et surtout quand je vois de quelle manière on parle d'environnement à travers les programmes politiques, à travers les publicités, à travers les médias, je dirais qu'on a besoin surtout de généralistes. Et si possible, de généralistes qui soient bons vulgarisateurs.
Mais pour être un bon vulgarisateur, il faut avoir bien étudié la question et souvent avoir fait des études, justement.
Oui, alors les études peuvent se faire sur un banc d'école, dans notre petite sphère helvétique, où elles peuvent se faire aussi sur le terrain et sur le monde, et d'aller voyager, voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est moi ce qui s'est passé pour moi. C'est en allant voyager que j'ai appris, en mettant la main sur l'ouvrage, que j'ai commencé à travailler et j'ai vu ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai étudié, que j'ai nourri mon intellect.
Alors, vous dites volontiers justement que, bon, dans le domaine de l'écologie, le citoyen est largement désinformé, qu'il est même trompé sur ces questions-là. Vous n'y allez quand même pas un petit peu fort? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, globalement, le public est plus informé aujourd'hui sur les questions écologiques qu'il ne l'était il y a encore 10 ou 20 ans?
Alors la quantité d'informations qui tournent sur l'environnement, effectivement, tous les jours nous en parlons, mais c'est de la manière à laquelle on parle d'environnement. On est encore très axé sur la pollution directe, c'est-à-dire ce qui va sortir du pot d'échappement d'une voiture, de la cheminée d'une maison. Et nos programmes politiques, en tout cas sur le plan helvétique et sur le plan européen, ne s'arrêtent qu'à cette pollution-là. Alors que c'est pas la pollution la plus nocive. La pollution nocive, elle se passe de l'autre côté de la planète. C'est en Chine, dans les pays qui vont fabriquer tous les objets que nous avons. Et ça, c'est la nocivité réelle pour notre environnement. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons effectivement plus d'écologie, tant mieux, mais c'est une écologie de surface, avec un esprit de clocher. C'est-à-dire, on croit résoudre des problèmes mondiaux, internationaux, en prenant des solutions locales. Et je dirais que quand on voit ce qu'on va faire en Suisse, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la voiture, vu qu'on est là pour discuter de la voiture, nos programmes politiques vont nous inviter à changer de véhicule, à acheter un véhicule neuf, hybride, ou qui consomme moins, ou qui rejette moins de CO2, et de jeter notre ancienne voiture. C'est ce qu'on nous aide, à faire actuellement. Il y a des taxes qui viennent dans ce sens-là, et tout nous pousse à ça. Et je vois des personnes qui font ça en ayant l'envie de prendre soin de la vie. Pour moi, l'écologie, c'est prendre soin de la vie. Et je vois des gens qui ont envie de prendre soin de la vie et qui le font. Et moi, ce qui m'attriste, c'est que les personnes là, bien même qu'elles soient informées, elles sont mal informées parce que le geste qui est fait là n'est pas le bon geste pour l'environnement, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte et on ne nous parle pas de la pollution indirecte, c'est-à-dire de l'énergie grise.
Alors on y vient justement, on va rappeler ce qu'est l'énergie grise, dont on parle peut-être un peu moins, effectivement c'est pas le thème récurrent le plus évident dans le mainstream de l'information autour des questions écologiques, mais on en parle quand même, c'est quelque chose qui est connu. Rappelez-nous quel est le principe de l'énergie grise.
Alors l'énergie grise, c'est-à-dire la pollution qu'on a besoin de lâcher dans l'atmosphère pour fabriquer l'objet. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne tient pas assez compte dans nos programmes politiques. On n'en tient pas compte du tout. Si on observe même dans le programme de l'assainissement des bâtiments, on va nous donner des coefficients pour arriver à certains coefficients pour permettre d'isoler, on va demander à isoler le bâtiment au mieux. On a des coefficients qui nous sont donnés, mais on ne regarde pas du tout quel genre de matériaux on va utiliser pour arriver à ces coefficients.
Et oui, parce que ça, c'est ce que vous mettez aussi en évidence dans ce livre, parce que c'est vrai que du point de vue, si on veut traiter l'énergie grise, la voiture est un très bon exemple. C'est qu'une voiture, il faut la concevoir dans son ensemble, c'est-à-dire depuis l'extraction de la matière première nécessaire à sa fabrication jusqu'à sa démolition.
Effectivement. Et c'est là que la chatte a mal à la patte, si je peux me dire. J'espère que ce soit juste cette expression, parce que souvent je me trompe.
Je ne sais pas, je vous la laisse, c'est la vôtre. Bon.
C'est justement là que le bas blesse, par contre, ça, je suis sûr qu'il existe, cette expression-là. Effectivement, c'est ce qu'on ne voit pas, en fait. Et pourtant, c'est là que se cache la pollution nocive. Quand je parle de pollution nocive, ce qu'il faut savoir, c'est que, au bout d'un pot d'échappement d'une voiture, au jour d'aujourd'hui, mis à part du CO2, je parle d'une voiture à essence, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, tout ce qui était plus nocif, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures imbrûlés ou les oxydes d'azote, ceci, ça a pratiquement...
Ça a beaucoup baissé depuis les années 70. Et d'ailleurs, vous le montrez.
Tout à fait, exactement.
Vous publiez un tableau du TCS, c'est la source, qui montre très bien qu'entre 1977 et 2015, globalement, les émissions de CO2, d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures brûlés ont drastiquement diminué, se sont effondrés même. Mais vous conviendrez quand même, Lucien Villemain, qu'il était important, qu'il est toujours important et urgent de diminuer les rejets de CO2, qui est un gaz à effet de serre, vu l'urgence de la situation du climat. Et d'ailleurs, ça tombe assez bien, puisque vous savez que 2012, on a battu tous les records d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Notre grenouille chauffante en parlait tout à l'heure.
Tout à fait, c'est clair, mais il faut savoir aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais simplement ce que j'aimerais dire, c'est que laisser sa voiture au garage et d'aller à pied ne suffira pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la voiture sous un plus grand angle. C'est l'angle que j'essaie d'apporter à la population pour permettre à chacun d'élargir son horizon de réflexion. C'est ça qui est important.
Et c'est là, Lucien Villemain, que vous battez en brèche un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, à la question « Vaut-il mieux rouler dans une voiture hybride dernière génération ou dans un 4x4 ?» Vous répondez...
Dans un ancien 4x4. Mmh. Le terme « ancien » est important. Ce que je dis, c'est que finalement, on a tendance à montrer du doigt, comme gros pollueur en matière d'automobile, le conducteur d'une ancienne 4x4. Parce que c'est clair qu'ici, on voit la grosse fumée noire qui sort du 4x4. Effectivement, c'est impressionnant et on a l'impression de beaucoup polluer. Et on va montrer...
Surtout si c'est un diesel.
En plus de ça. Et on va montrer, par contre, comme élève exemplaire, la personne qui a acheté une hybride flambant neuve. C'est ce qu'on a tendance. C'est ce qu'on a. On nourrit l'esprit collectif de cette image-là.
Alors, quand vous dites « on », c'est certaines politiques qui sont menées et surtout les campagnes de communication, la publicité, en d'autres termes.
Tout à fait. Mais tout le monde, ça part du programme politique, qui sont suivis, bien sûr, par les médias. Et puis, tout ça, les publicités à travers les multinationales qui vont dans ce sens-là, bien entendu.
Alors, en quoi est-il préférable de rouler dans un vieux 4x4 que dans une voiture hybride, concrètement?
La voiture hybride a besoin d'être construite. C'est-à-dire, pour la construire, nous avons toute filière de produits chimiques. Imaginez simplement, vous le degré de nocivité, la pollution nécessaire pour la construction des composants. Une voiture, aujourd'hui, c'est entre 150 et 200 000 composants. Mais ça, ce sont les composants. Un composant, si vous prenez un volant, ça a plusieurs pièces. Donc, savoir le nombre de pièces, il faut faire x3, x4. C'est-à-dire, on est entre 500 et 800 000 pièces pour une voiture. Imaginez-vous toutes ces pièces à fabriquer des quatre coins de la planète. Parce qu'une voiture allemande n'est plus allemande, une voiture italienne n'est plus italienne. Les voitures aujourd'hui sont internationales. Mmh. Et imaginez-vous, tous ces différents composants et pièces à fabriquer dans les quatre coins de la planète et à rassembler. Déjà, juste rassembler des centaines de milliers de pièces ensemble pour pouvoir constituer une voiture. Imaginez-vous ce qu'il a fallu comme pollution pour le faire. C'est énorme. Et ensuite, la fabrication. Ce qui se passe, il y a bien sûr besoin d'électricité pour ça, donc des centrales à charbon qui vont rejeter aussi elles-mêmes du CO2, et bien plus que du CO2, beaucoup de nocivité aussi dans l'atmosphère. Et puis après, ce qu'il faut au-delà de cela, c'est de voir aussi au-delà de l'énergie qu'il faut pour fabriquer une voiture, c'est de voir la nocivité de la pollution. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce qui sort d'un pot d'échappement qui n'est pratiquement plus que du CO2. Certes, il faut en tenir compte, mais attention de ne pas être omnubilé uniquement par ce CO2 et que cette fixette fasse qu'on oublie complètement tout le reste de la pollution de l'autre côté de la planète. Et c'est là qu'il faut voir que des matériaux à extraire, imaginez-vous tous les synthétiques, les composants, toute la filière chimique qu'il faut pour fabriquer tout ça. Et ça, c'est la pollution nocive, c'est celle qui tue la vie. de l'autre côté de la planète. Nappe phréatique, les sols, les mers, etc.
On a bien compris, Lucien Villemain, que globalement, ce que vous montrez, c'est que nous avons eu tendance ces dernières années à exporter notre impact environnemental, puisque effectivement, si les gaz, les rejets de gaz à effet de serre ont beaucoup augmenté dans le monde en 2012, ils ont plutôt diminué dans un certain nombre de pays occidentaux, parce que des efforts sont faits, parce qu'il y a aussi eu la crise. Mais j'ai envie de vous dire en même temps, tout ça, c'est aussi des emplois.
Tout à fait, c'est un emploi, mais il y a une autre forme d'emploi qui est possible également. C'est-à-dire que si on accepte d'utiliser et d'user jusqu'au bout notre parc de véhicules actuel...
Si on fait réparer, en d'autres termes.
Si on fait réparer, la réparation, c'est aussi de l'emploi. Et ce qui est intéressant à travers la réparation, c'est que c'est de l'emploi qui utilise l'intelligence manuelle. On a beaucoup de jeunes qui naissent sur cette planète avec l'intelligence manuelle. C'est un peu comme une biodiversité. Chacun est là pour quelque chose. Mais on a eu tendance ces dernières années, ces dernières décennies, à ne plus vraiment valoriser l'intelligence manuelle, alors qu'elle est là, toujours présente.
En voiture, Simone, comprendre l'énergie grise, c'est le premier opuscule d'une série que vous comptez entièrement consacré à l'énergie grise. Quelle sera la prochaine alors ? Quel sera le prochain opuscule ?
Alors le thème, je ne vais pas vous le donner maintenant. Il y a quelque chose en préparation. Ce sera pour dans quelques mois. Chacun de ces petits bouquins seront là pour justement intensifier le message de l'énergie grise. Donc ce sera le fil conducteur à chaque fois avec des thèmes différents qui nous occupent tous, des thèmes fondamentaux de société et pour un peu rétablir une certaine vision plus large de ce qu'est l'environnement.
À destination des jeunes et des moins jeunes.
Des jeunes, de tous. C'est-à-dire qu'on ait fait des études ou qu'on n'ait pas fait d'études. Tout le monde peut s'y retrouver. C'est le travail de vulgarisation qui a été fait dans ce petit bouquin, qui est quelque chose que j'espère soit agréable à lire.
Oui, il est très drôle. Il est,
voilà, c'est ça, d'apporter
des... Il est très bien fait, assez bien documenté, effectivement très clair.
Voilà, et c'est le but, c'est vraiment d'être le plus clair possible pour que... C'est une question de masse, l'environnement. Il faut absolument que la masse puisse comprendre. Il faut que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux environnementaux et comprendre où sont les gestes à haut potentiel. Et c'est ce que je m'appliquerai à travailler à travers ces petits bouquins.
Alors, on attend le suivant pour quand, alors ?
Oh, ce sera pour le prochain salon du livre, je pense.
Prochain salon du livre, dans un an, donc.
Ouais, pas tout à fait.
En voiture, Simone, comprendre l'énergie grise. 30 minutes pour tout comprendre, même. Ça se lit en 30 minutes, effectivement, et même un peu moins si on lit vite. C'est signé Lucien Villemain qui était mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est, je le rappelle, illustré par Mixer UX, disponible dans toutes les bonnes librairies, bien sûr.
Merci beaucoup à vous.
Bon week-end.
Merci beaucoup à vous aussi. Ouais.